Vous aimez rire, vous aimez la France, votre idéal masculin c'est Gérard Jugnot, alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche 80s. Compris dans Parlons Péloche 80s, aujourd'hui il sera question des comédies françaises des années 80. La comédie française est un genre cinématographique regroupant les films fonctionnant sur le registre de l'humour produit et distribué sur le sol français. Dans les années 80, la comédie française est en pleine transition, une transition que l'on a appelée l'après-Louis de Funès ou l'après-Gérard Houry, le premier ayant disparu et le deuxième ayant disparu artistiquement. Mais ça c'est ce que nous dit... Ça a été plus dur pour Gérard Houry à partir des années 80. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'une comédie française des années 80. Nous nous demanderons également ce qu'était ce genre dans les années 80 en donnant nos impressions sur trois films majeurs sortis sur cette période. Et c'est après avoir parlé de nos comédies FR 80s préférées que nous nous rendrons compte avec Antoine que si la vie est un long fleuve tranquille, il y a parfois une merde qui flotte à la surface avec sa chronique de fin d'émission. Mais pour parler des comédies...
Karma,
c'est pas toi la merde, c'est la chronique. Hein,
quoi ?
C'est pas toi la merde qui flotte, c'est la chronique. Voilà, c'est pas si méchant. Mais pour parler des comédies...
Oui, c'est juste mon travail.
Il a déjà fait pire.
Oui, c'est vrai. Mais pour parler des comédies françaises des années 80, autour de la table, vous le connaissez sûrement car il a réalisé le remake américain du Père Noël est une ordure, Christmas Father is a Garbage. C'est Fouad, bonsoir.
Salut Thomas.
Vous le connaissez sûrement car il imite à la perfection Louis de Funès, c'est Antoine. Bonsoir Antoine.
Nom 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 nom.
Voilà,
oh ma biche.
C'est la perfection.
Je savais qu'il me décevrait pas. Même si l'imitation est un peu décevante. Vous la connaissez sûrement car elle imite à la perfection Jacques Villeray dans La Soupe aux Choux. C'est Béa, bonsoir Béa.
Prout.
Jacques Villeray dans La Soupe aux Choux.
Prout.
C'est vraiment pas du tout ça. Et enfin, vous le connaissez sûrement car il est, et c'est pratique parce qu'on va parler d'humour, il est rigolo. 70e numéro de Parlons Péloche, j'ai plus d'inspiration. C'est David, bonsoir David.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Et bien voilà, l'intro c'est fait, allons rire à l'ancienne avec la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux tu sais.
Tas de beaux yeux tu sais.
Dans le tas de beaux yeux tu sais, nous allons définir ce qu'était la comédie française dans les années 80 à travers les yeux de nos chroniqueurs pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à voir ou à revoir une comédie 80s française. Je l'ai dit dans l'introduction, bon en gros c'est des films rigolos, mais... Dans les années 80, il y avait une petite spécialité et c'était une période de transition. L'après Louis de Funès, qui était une période très mollassonne, qui s'est principalement réglée à la fin des années 80, avec notamment l'éclosion du Splendide. Et on verra, nous, aujourd'hui, plutôt le début des années 80, pour lequel on a quand même pris une sélection plutôt ronflante. Qu'est-ce qu'on attend ?
Pas piquer des hannetons,
je sais plus quoi dire, ça part là-dessus. David, toi, est-ce que tu t'y connais bien déjà en comédie française des années 80 ?
Bah, en fait, je suis plus comédie française des années 90 parce que c'est plus ma génération et en me replongeant dans toutes les comédies des années 80, c'est vrai que tu te rends compte, il y a beaucoup de nanars quand même. Mmh. Et comme j'affectionne, j'ai fait un mélange des deux. En fait, comme j'aime beaucoup les nanars, donc en fait j'en ai vu beaucoup. Alors les Max Pécasse, j'adore ça. Si en plus il y a un petit peu de nichon, c'est encore mieux.
Bah de toute façon, le rôle de la femme est très fonction dans les années 80.
Ah oui,
on en reparlera. Pour tous les genres, mais en comédie française, on n'a pas un seul bon rôle de.
Et en fait, ce qui est cool là avec la sélection qu'on a aujourd'hui, c'est que j'ai pu redécouvrir des films en mode ah bah tel film il passe tout le temps à la télé, c'est bon, je l'ai déjà vu 20 fois, je vais pas le revoir. Et en fait, j'ai redécouvert des films et donc merci Thomas pour tout ce que tu fais.
Moi j'ai mis des petits films que j'aimais bien dans la section qui pour moi représentent le genre, mais enfin l'époque, une époque dans laquelle je ne vivais pas, je n'étais même pas à l'état embryonnaire. Fouad Boudard, est-ce que tu aimes la comédie des années 80, toi,
oui.
Française ?
Alors il y a deux choses en fait, c'est que pour moi les années 80 c'est Pierre Richard, c'est Pierre Richard et je n'arrive pas à voir d'autres. Et c'est que bizarrement, et c'est pour ça que je suis très content de la programmation, c'est que je suis à passer à côté du Splendide. Okay. C'est vrai que j'ai jamais vu Les Bronzés et je n'avais jamais vu le Père Noël est une ordure. Et je suis passé à côté totalement.
C'est fou quand même quand on sait ton.
Bah oui, c'est fou.
Ta culture cinématographique.
C'est quand même dommage de ne pas avoir vu Les Bronzés 3. Parce que...
Alors j'en ai entendu parler, il paraît que voilà, même les fans.
Ah non, c'est insupportable.
Faut pas le regarder.
Et moi, quand j'avais 8 ans, moi, je regardais le cinéma russe des années 20, Eisenstein, Jurassic de Potemkin, tu vois, c'était.
Oui, mais c'est parce que tu étais de l'autre côté du mur.
Et c'est marrant parce que dans la bande-annonce du Père Noël est une ordure, Thierry Lhermitte, je crois, dit c'est un film qui rappelle le cuirassé Potemkin.
C'est marrant. Ça,
c'est une bande-annonce qui a été faite, hein, il n'y a pas trop d'extrait du
total
film.
Total hasard.
Et voilà.
C'est parce qu'en fait, comme c'était vulgaire comme titre, ils ne pouvaient pas en faire de la pub autant qu'ils auraient voulu en faire. Quoi.
On en parlera.
C'est mal dit ce que j'ai dit, mais vous.
Non, c'était très bien, mais là, tu ne dois pas t'auto-juger, tu le sais.
Et donc, moi, j'ai grandi donc, dans les années 80, et moi, la comédie française, c'est Louis de Funès et Pierre Richard. Et rien d'autre. Et
Splendide maintenant. Toujours pas ?
Et alors, j'ai pas encore vu, faudrait que je voie les Bronzés.
Et Tex, tu me disais aussi.
trop peu présent aussi.
Et après, ça a été surtout la télé, donc avec Les Nuls, Les Inconnus, etc. Derrick. Et donc, je suis content de la programmation parce que j'ai découvert enfin Les Aventuriers de l'Arche Perdue.
Et pourquoi
Je me mélange avec un autre épisode, pardon.
Alors, moi, juste pour vous dire, vous le savez, si vous écoutez souvent Barlon Béloche, je garde le même truc, je garde le même template de conducteur d'émission, et du coup, il y a eu un moment sur ma feuille où il était écrit « La chèvre de James Cameron ». Je trouve ça très drôle. Donc, pour toi, c'est quoi ce genre ?
Pour moi, ce genre, c'est les projections. En fait, c'est les soirées télé du dimanche soir sur TF1. C'est les Pierre Richard. C'est Ciné Dimanche, là. C'est les Pierre Richard que je regardais le dimanche soir sur TF1, en fait.
Antoine ?
Eh bien, c'est une belle époque, les années 80. Moi, j'aime beaucoup.
Globalement, oui.
Globalement.
En cinéma, c'est, oui.
C'est assez chouette. Alors, moi, j'ai remarqué, c'est pour une plus vieille séquence de l'émission qui consiste à chercher des références. Moi, je me suis rendu compte que toutes les références que je pensais dans les années 80 en fait dans les années 70.
Moi aussi, exactement comme toi.
Donc ça m'a fait un peu bizarre.
Les Bronzés, c'était les 80.
C'est ça. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'au final, au niveau 80 comédie française, ça reste un peu pauvre. Alors, il y a des films qui sortent du lot, qu'on soit d'accord.
Mais c'est un peu pauvre.
Mais voilà, c'est un peu pauvre. Et ça reste aussi dans cette ambiance années 70. C'est le même genre de film. Et il y a vraiment cette scission dans les années 90 où on change tout de suite totalement de registre. Ouais. Ça n'a plus rien à voir.
Les visiteurs arrivent et tout ça.
Voilà, c'est ça.
Jean-Marie Poiret découvre la drogue.
C'est vrai que t'as une affection pour Jean-Marie Lapoire.
Sachez qu'il y avait une affection pour la drogue. Mais
oui, aussi.
Et du coup, non, c'était...
Tu vois ça, la drogue ou ton fils
Mais tu sais, mon fils est une drogue.
Ouais, moi, je sais que tu as déjà mis au pawn shop pour acheter ta coque.
Pour acheter un rail.
Non, c'est une chouette section. Moi, je suis pareil. Moi, j'adore Pierre Richard. Moi, dans ma famille, mon père était un gros fan de Pierre Richard. Donc, on avait toutes les VHS, hein, du Distrait, en passant par Les Compères, Les Fugitifs.
On a le même daron, Antoine, au fond. Hein.
Mais peut-être.
Et mon daron aura un rôle à jouer dans cette émission. Vous le verrez tout à l'heure.
Et du coup, moi, je suis un gros fan de ces personnages-là. Je suis pas du tout un fan du Splendide. J'ai vraiment un problème avec tous leurs films. Mais j'en parlerai plus longuement plus tard, mais franchement, si j'ai envie de voir un film des années 80, je me mets toujours un petit Pierre Richard.
Un petit Pierrot. Béa, est-ce que tes connaissances sont vastes déjà, je pense ?
Bah oui, j'ai bien vécu les années 80.
Mmh. Oh et oui c'est...
J'ai dit toute petite, hein, mais quand même. Non, mais c'est un cinéma vraiment pas prise de tête. En tout cas, les comédies françaises dans ces années-là. Et vous l'avez dit, hein, c'est très proche du cinéma des années 70. On est vraiment dans la continuité du cinéma des années 70, alors que voilà, il y a une scission dans les années 90. On a beaucoup de groupes et d'acteurs qui viennent du café-théâtre à cette époque-là. Bah, Daniel Auteuil, vient de là, Jacques Villeray aussi. Et on a aussi pas mal de... Alors, c'est déjà le cas, mais les duos antinomiques, il y en a vraiment beaucoup dans cette période-là. Et pas seulement, d'ailleurs, dans les comédies, dans tous les genres de cette époque-là. Il y a beaucoup de duos.
Mais on a Clown Blanc, Clown...
Oui, voilà. Voilà.
Le buddy movie, quoi.
Bah, moi, quand je pense au cinéma des années 80, bah, je pense aussi à plein de répliques cultes qui ont traversé les époque. Voilà, vous l'avez dit, la plupart d'entre vous ne sont pas nés dans les années 80.
Oui.
Et en fait, il y a plein de répliques que vous connaissez.
Mais évidemment, moi, quand je prends la bagnole, je dis dit allez à Créteil.
Mais bah vraiment, oui. Non, mais elles ont vraiment traversé.
Ça dépend, ça dépasse.
Et voilà. Et c'est,
mon vélo.
Pour moi, c'est ça. Je trouve qu'on a peut-être moins ça après.
Luc, je suis ton père.
Dans cette époque, en fait.
En 90 et tout, il y a peut-être moins de répliques. Ouais, c'est vrai que c'était aussi peut-être une époque où on écrivait mieux, on écrivait encore plus, mieux les dialogues.
Ouais.
Est-ce qu'on a fait. T'as dit Luc, je suis ton père, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour, là, les amis? Oui. Alors, on aurait pu aussi dire qu'il y avait dans cette période de transition pour l'humour français, il y a un abandon des mimiques clownesques. On se rapproche plus justement de quelque chose qui essaye de mettre en place du réalisme social. Il y a des dialogues sophistiqués, Béa en a parlé, un recours au second degré beaucoup plus que dans les comédies précédentes, un remplacement de la vulgarité par l'humour bête et méchant. Et dans la brèche, il y aura des comédies un peu cyniques aussi qui vont arriver. Donc il y a Les Ripoux, La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, qui vont... tout ça aller vers plus tard les visiteurs, mais du cynisme un peu plus qu'avant. Donc c'est ça aussi les transformations qu'on a, et je pense que dans la sélection du jour on a un peu de tout ça, mais justement pas regroupé dans le même film. On a ce qu'on appelle un éventail. Et cet éventail, on va le découvrir ensemble tout de suite.
Un éventail ronflant.
Dans quelle séquence on va le découvrir, cet éventail, ma petite crêpe?
T'as de beaux yeux, tu sais.
Mais voilà.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Ouais, t'as un nouveau sobriquet, Béa. Je sais pas d'où il sort. Alors, le tas de beaux yeux, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, le tas de beaux yeux, tu sais? Vous le savez? C'était le nom de Zeus, Béa.
Mais c'est le nom de Zeus.
Mais c'est pas grave, tas de beaux yeux, tu sais. T'as même pas réagi.
Merci, Béa. Bah écoute, moi je compte sur toi pour m'épauler, mais je vois qu'effectivement. Effectivement.
Je suis trop contente d'avoir sorti le truc.
Bah ouais, bah non. Ça ne va pas. C'est le premier gag de cette émission. Bonne année.
Ça n'est pas arrivé avec le vrai animateur de Parlons.
C'est vrai.
Mais oui.
Mais oui.
C'est vrai.
10 fois, je vais finalement faire monter en fonction, je pense.
Il est temps de changer.
C'est le seul qui m'a jamais vraiment déçu. Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission où on fait le tour d'horizon de 3 comédies françaises sorties dans les années 80. Sarkozy. Pour voir ce qu'était ce genre à l'époque, on écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser quand ça, Béa.
Ce soir.
Ben voilà.
J'ai pour mission de vous transformer en bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi et je gagnerai.
Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal.
Je vous demande de parler plus fort.
Mais jamais.
Quelles sont les formalités pour faire partie du club?
Ah, monsieur Prescovic. C'est Prescovic, Thérèse.
Qu'est-ce qui vous arrive encore?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Et vous vous enfoncez sans réagir?
Ça fait 4 ans que chaque année vous ratez votre bac. Vous m'empêchez de manger tranquillement.
J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin.
Non, non, attends. Tu sais ce qui emmerde le plus un mec? C'est que sa fiancée saute son meilleur copain.
On ne sait que choisir.
C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix.
T'es sûr?
Ah, les sondages sont formels.
Merde. Si elle me pique, je meurs. Oh. En vacances, une fois, j'étais piqué. Une semaine d'hôpital. Failli crever. Je gonfle, puis je me mets étouffé.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
C'est pas son jour, dis-donc. C'est jamais son jour.
Et oui, dans ce medley, parfaitement réalisé, par mes propres soins, vous l'avez entendu, il sera question du Père Noël est une ordure de la chèvre, donc Father Christmas is stinky, c'est le vrai titre américain.
Non, c'est pas Mixed Nuts?
Ouais.
Mixed Nuts.
Bah, moi j'ai lu Stinky Christmas Father.
Ah bon? Il y a un vrai remake, Mixed, on ne peut pas le prononcer, mais il y a un vrai remake.
Ok, donc ensuite La Chèvre, The Croot, et les Soudoués passent leur bac, so...
The Soudoués.
La Chèvre aussi, il y a un remake.
Get the back à l'horreur.
La chèvre aussi, il y a un remake, attends, je te l'ai noté.
Ah non, mais c'est des questions que je pose après dans l'émission.
Ah merde.
non, mais vas-y, bah, dis-le, parce que comme ça, je le dirai
attends,
pas tout à l'heure.
Du coup, je m'en souviens plus. Attends, c'est Danger Public.
Danger Public, ouais, voilà.
91, avec Martin Short.
Et qui a foiré complètement au box-office.
Et Danny Glover.
On verra avec Danny Glover.
D'ailleurs, la bande-annonce, c'est assez marrant, parce qu'ils disent, ils présentent Danny Glover, puis ils disent, et son coéquipier d'habitude n'a pas pu venir. Et du coup, t'as Martin Short à la place. Okay. Voilà. C'est exactement le même film.
C'est le même film qui a pas marché. Et t'as dit Danger Public, ça c'est la traduction. Et c'était Pure Luck.
Ouais, un truc
voilà. Qui est plus cohérent que Danger Public.
Oui. Bien sûr.
Au final. Alors,
comme d'habitude.
Nous, on va commencer, tout à fait, on va commencer par un petit jeu sur les 3 films déjà. On va parler des audiences. Donc on commence par Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret, sorti en 1982. À votre avis, alors on va faire... c'est ça. C'est ça qu'on va faire. J'ai dit que mon père aurait un rôle dans l'émission. Eh bien, mon père a fait les synopsis de ces films et il m'a envoyé le fichier. Et le vrai problème avec tout ça, c'est que j'ai pas eu le temps d'écouter comment il synopsisait. Donc peut-être ça va durer 5 minutes par film et ça va être chiant. Et je sais pas non plus dans quel ordre il m'a envoyé les fichiers et il les a pas nommés. Donc je vais mettre le premier, mais je suis pas sûr.
Le Père Noël est une ordure. Si vous êtes seul le soir de Noël, téléphonez donc à SOS Détresse Amitié. Si par hasard vous y êtes invité, alors vous vivrez des heures inoubliables de cauchemars, de situations hors du commun, et même avec un peu de chance ou pas, vous pouvez même être témoin d'un homicide qui servira de repas à tout un zoo.
En vrai, c'est bien résumé, et mon père a eu un accident de cheval. Donc, c'est ma mère qui l'a fait, donc c'est Michel qui l'a fait. Donc voilà, c'est ça le synopsis. C'est plutôt bien, oui, c'est plutôt correct.
C'est clair.
Elle l'a bossé.
Une tentative de mise en scène, un acting plutôt
la petite
moyen.
Musique derrière.
Moyen
de musique derrière. Ouais. Ça reste pas fou, hein, on va pas se mentir. Alors, les audiences du Père Noël est une ordure, à votre avis, en France en 1982, ça a fait combien de spectateurs? Béa.
Alors, je sais que ça n'a pas marché, que c'est la télé qui a donné.
C'est exact.
Voilà.
Ça n'a pas marché.
Donc,
il y a pire. Mais
oui,
ça
oui, non, mais peut-être qu'ils ont fait, je sais pas, un million ou un million deux, quoi. Enfin...
David
ouais, comme Béa, un million trois.
Antoine
ouais, 800 000 entrées.
Fouad
ouais, 700 000.
Alors, c'est 1 500 000, sachant que sur le bouquin Génération Vidéo Club, là, je me rapproche de mon micro pour le dire, le bouquin Génération Vidéo Club d'Allociné, ils me disent 2 400 000, sachant que l'info de 1 500 000, j'ai trouvé sur Wikipédia, donc qui a raison ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Ah, ma question anecdote sur le film, pourquoi ce film a été boudé par la RATP ?
Bah, pour la raison dont je parlais tout à l'heure, en fait, ils ne pouvaient pas mettre en plein métro, le Père Noël est une ordure, c'était trop vulgaire.
Alors que c'est ordure, quoi. Donc on vit vraiment dans une autre époque.
Ah oui, c'est le mot ordure.
Oui,
le mot
ordure. Ah ouais. Et puis, enfin, oui, alors
parce que
j'imagine
c'était
aussi
avec
peut-être parce que c'était le Père Noël.
Ouais, Père Noël,
donc,
ouais.
Il y avait eu ça aussi pour Douce Nuit, Sanglante Nuit aux États-Unis, où c'est l'histoire d'un Père Noël tueur. Et il y a eu des énormes montées de
Ah oui, pour les enfants.
C'est Black Christmas, c'est ça?
Non,
c'est Silent Night, Deadly Night.
Ah ok.
Et c'est incroyable, ça, ce truc. Et sachant qu'il y a des cinémas, du coup, qui changeaient l'affiche. Et donc, il y a eu Le Père Noël est une ordure, trois petits points, pas le vrai. Et, ou encore, Le Père Noël est, trois petits points, presque, trois petits points, une ordure.
C'est pas vrai.
C'est fou, hein. C'est comme quoi, là, aujourd'hui,
je savais pas.
Alors qu'en fait, c'est Gérard Jugnot, mais bon, après.
Mais c'est incroyable. J'ai plein d'autres anecdotes que j'ai trouvées rigolotes. Par exemple, sachez qu'à la base, ça devait être. Le rôle de Christian Clavier devait être fait par Gérard Jugnot. Et à votre avis, pourquoi il a pas pu?
Parce qu'il a une moustache?
Pilosité excessive. Voilà, c'est ça la raison. Et je vous saupoudrerai comme ça l'analyse du film, deux petites anecdotes. Voilà, si j'y pense, quoi. Béa, est-ce que c'est une place importante dans ta ville, Père Noël est une ordure?
Écoute, oui. Je préfère les bronzés, pour le coup, dans le film du Splendide. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des répliques qui traversent le temps, même pour ceux qui n'étaient pas nés. Donc, j'aime bien la pièce de théâtre qui est passée moins souvent. Je pense que je l'ai vue deux fois dans ma vie.
Beaucoup plus funeste. Hein, quasi tous les personnages meurent dans la pièce.
Oui, voilà. Je trouve que l'adaptation en film, quand t'as vu la pièce, du coup, est moins rythmée. Enfin, c'est...
Tu trouves le film moins rythmé que la pièce?
Moi, je trouve le film moins rythmé que la pièce. Et puis, effectivement, moins sombre. Un petit peu moins intéressant.
Il n'y a pas Josiane Balasco, le rôle de Josiane Balasco.
Oui, il a été rajouté pour qu'elle puisse faire partie de l'aventure. Alors c'est le genre de film, on se dit, oh là, c'est bon, je le connais par cœur, je ne vais pas regarder. Et malgré tout, quand on tombe dessus, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de rester, même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas grave de ne pas le voir en entier, mais c'est toujours. C'est bien joué, c'est quand même. Très bien écrit dans les dialogues, mais vraiment si vous avez l'occasion, alors encore une fois ça passe vraiment très rarement pour le coup, mais la pièce de théâtre est assez intéressante. Oui, non, le film c'est bon, vous pouvez le voir. Mais...
Elle est sur YouTube.
Elle est sur YouTube. Ouais,
D'accord, ok.
Pas en hyper belle qualité, mais elle est sur YouTube quoi. La phrase c'est cela, oui.
C'est cela,
oui. Elle vient d'où cette phrase à votre avis?
Oh, d'une impro. Une
chanson, non ?
Un membre de la famille de l'ermite.
Un membre de l'organisation de l'équipe du Splendid, quoi. Donc un mec un peu.
Michel Blanc était,
pas un des acteurs, mais un mec, un producteur qui était là, ou je sais pas qui, mais qui disait toujours c'est cela, oui, ça les faisait rire dans l'équipe. Donc c'est comme ça que cette réplique qui est maintenant culte. Et d'où vient la réplique putain de ta mère, salope ? Non, je rigole, c'est là, on n'avait pas la réponse. Est-ce que Fouad, du coup, qui ne l'avait jamais vu, ce qui est hyper intéressant, est-ce que tu as trouvé ça chouettos ?
Ouais, c'est super drôle. Donc je l'ai vu là, il y a 2 heures. Et comme un peu comme Les Bronzés, en fait, c'est un film, je suis passé totalement à côté, mais j'en ai tellement entendu les répliques, tellement que, en fait, je l'ai regardé, j'ai l'impression d'avoir déjà vu.
Ouais, c'est sûr.
Et encore plus étrangement, c'est qu'il y a des expressions. Moi, je croyais que c'était des expressions populaires, du langage courant.
Ouais.
Et en fait, ça vient du film.
Ouais.
Comme rouler sous les aisselles, par exemple.
Ouais.
Moi, je pensais que l'expression, je l'ai déjà utiliser cette expression pour déconner, machin. Et moi, je pensais que c'était...
T'es un rigolo.
Voilà, parce que c'est un peu rigolo, j'aime bien les blagues, tout ça.
La galéjade.
Et moi, je pensais que...
N'hésite pas à faire le zouave.
Voilà, c'est ça, à la moindre première occasion, d'ailleurs.
S'il y avait un indice du délire à donner sur toi, on serait sur 8 ou 9 sur 10.
8, ouais, minimum.
Minimum.
Tout à fait. Bon, voilà. Et donc, paragraphe suivant, donc, virgule. Et moi, je pensais que c'était une expression ou du langage.
Ouais.
Et en fait, ça vient du film. Et c'était assez fascinant à voir. En fait, c'est comme si tu rencontres quelqu'un dont tu as beaucoup entendu parler pendant des années. C'est comme si tu rencontrais pour la première fois quelqu'un que tu ne connaissais que de réputation, en fait. C'est un peu ça. Et donc, moi, j'ai été bluffé par l'écriture ciselée et le rythme des dialogues.
Qui est forcément très théâtral, vu que l'origine est une pièce de théâtre.
Rythme du jeu. Et ça, j'ai été bluffé par ça et par, en fait, la puissance du comique qui repose principalement sur les dialogues et le jeu des comédiens et sur la manière dont ils déclament leurs répliques. Parce que, en fait, ils disent des choses très, très basiques, en fait, dans leur dialogue. Ils sont pas dans des gags, des jeux de mots délirants.
Mais il y a une incarnation,
et c'est juste dans la manière dont ils disent leurs répliques.
Et Balasco, c'est pour moi la plus grande représentante de ça dans le film, quoi, parce qu'elle a un rôle ultra fort où elle. Pour moi, ça coule de source, quoi, la façon dont Balasco joue. Autant, l'ermite Anémone, c'est hyper marrant, mais c'est un rôle clownesque, quoi, on en rencontre pas vraiment des gens comme ça dans la vie, enfin, pas à ce point-là.
Madame Musquin.
Mais Madame Musquin, elle existe vraiment, quoi, Madame Musquin.
Et donc, ouais, je suis bluffé, vraiment. Super film.
David Marmignon.
Je trouve que c'est un film toujours très, très drôle, quoi. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Et je crois que c'est mon préféré de la sélection, parce que c'est vraiment une comédie à l'italienne, tu vois.
Tu spoilerais la suite de l'émission.
Ouais, mais tu vois... Ça me fait penser à Affreux, Sale et Méchant, tu vois. C'est vraiment des personnages qui sont abjects, qu'il y a plein de noirceurs dans le film. Du coup, je le considère pas comme un film de Noël, là où beaucoup de gens le considèrent, tu vois.
Ouais,
les films à voir à Noël, le Parrain d'une aventure.
Non,
pas ça à Noël, ça va te déprimer pendant 3 plombes. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est de voir que Clavier et Poiret, avant, ils faisaient des bons films ensemble. C'est dingue de voir ça, tu vois. Et même... Il y a des plans qui durent plus de 15 secondes.
Ouais.
Et ça, c'est dingue. Enfin, moi qui suis un fan absolu des Visiteurs 2, tu vois, par exemple, ou des Anges Gardiens, là, il y a un moment, un travelling, je l'ai chronométré, 20 secondes.
Ouais.
Hallucinant.
C'est énorme pour te parler.
Et il y a Clavier qui arrive même à être émouvant pour Katia.
Mais complètement.
Vraiment. Ouais. Alors, le pire, c'est que tu vois, j'avais pas vu le film depuis 20 ans. Arrive le personnage, je vais, ouh là là. Film de 82, ça va être compliqué. Et non, c'est très bien traité. Bon, il y a des moments un peu gênants, mais au final, le personnage... Non, mais au
non,
début,
mais
tu vois,
enfin...
les réactions de l'ermite, c'est...
C'est pas vous qui me dérangez, c'est votre vice.
Ouais. Oui, mais c'est le personnage.
C'est ça,
ça critique tu vois, ce type de personnage.
S'il n'y avait pas eu toutes les scènes après, ça aurait
pu être problématique. Tu dis touchant, et justement dans la pièce, son personnage se suicide, quoi.
Ouais. J'ai pas vu la.
Du coup,
vraiment, faut regarder la scène.
Tu vois que c'est plus plombant encore, quoi, parce que déjà là, effectivement, c'est assez hyper intéressant dans une comédie populaire, enfin, qui au départ n'était pas autant qu'aujourd'hui. Quel genre de personnage, quoi.
Du coup, je trouve que le final, il y a un peu plus de problèmes, tu vois, justement. là où dans la pièce ils se suicident tous apparemment.
Oui, la scène du zoo a vraiment été rajoutée, elle n'existe pas du tout.
Je peux vous dire la scène d'origine, la base. À l'origine, c'était Michel Blanc qui devait faire un curé, et donc ils allaient se repentir auprès du curé, et le curé les dénonçait, et donc le plan final, c'est qu'on les voyait
au tribunal, en une d'un journal.
Ouais. Donc c'était vraiment une fin beaucoup plus...
C'était noir.
Ouais, c'était très noir. Déjà que c'est très noir, c'est l'été encore plus.
Et là, tu vois, je trouve que la scène du zoo, c'est assez long, c'est assez...
On a compris, quoi.
Tu vois, ça s'imbrique pas autant, même au niveau des dialogues, ça s'imbrique vraiment pas aussi bien que toute la partie dans la maison, quoi, chez SOS Détresse Amitié. Là. Mais bon, ça reste toujours très drôle, et encore aujourd'hui. Et comme tu disais, quoi, moi j'ai halluciné le nombre de répliques qui sont dans le langage courant. En fait, tu connais.
C'est quasiment toutes les scènes. Hein.
Toutes les scènes. Et le film a presque 40 balais.
Ouais.
Et encore maintenant, tu vois. Alors que moi, je suis plus dans le côté, tu vois, les trois frères, années 90, c'est de la peur. Mais en fait, déjà là, et c'est vraiment hallucinant, quoi. Donc, c'est vraiment un très, très bon film. Et justement, tu vois, tu te dis, où sont passés ces gens, quoi? Les membres du Splendid, qu'est-ce qui reste d'eux?
Non, je veux dire, là, cette année, j'ai vu un film avec Michel Blanc qui était excellent. Voilà,
ouais,
docteur,
moi,
mais...
Ah oui, même avec
Clavier est encore excellent dans ce qu'il fait.
Oui, moi, je trouve que c'est un bon acteur. Après, il se caricature lui-même.
Il s'est lancé dans un truc, le réac de droite, mais tu vois...
Mais même là, on a parlé assez de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça. Moi, vous le savez, voilà, je l'ai dit, pour ceux qui ont écouté, je déteste le film, mais Clavier dedans est lumineux, je trouve, en fait. Il est bon, en fait.
Moi, tu vois, j'ai vu Bienvenue chez les Malawa. La meilleure partie du film, c'est Clavier qui fait du clavier.
Ouais, voilà, ouais.
Mais,
ça reste un vrai personnage.
Mais tu vois, on est à des années-lumière de Katia. Et même au niveau du script, au niveau des dialogues et tout, tu retrouves plus du tout ça. T'as peut-être des bribes. Enfin, quand tu vois les Bronzés 3 à côté, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Ouais, non, mais c'est sûr que les Bronzés 3, c'est un triste héritage. Tu parlais de la scène de fin, je parlais de la scène du début, petite anecdote. Donc Gérard Jugnot devant les Galeries Lafayette, tout ça. Les magasins n'étaient pas prévenus de ça. Donc en fait, Gérard Jugnot se planquait dans une camionnette et allait tourner vite fait, nanana. Et il y avait quand même un nom de code qui était donné de code. Ouais, j'ai vraiment du mal avec Léo. qui était donné, c'était les Bronzés Fête Noël. Donc j'en disais, on tourne les Bronzés Fête Noël. Voilà, c'était ça qui était dit. Antoine, je regarde dans tes yeux, je pense que tu le chéris, ce film.
Ah, je
le déteste.
Je le déteste. Je
pour
déteste
ça que j'ai fini par
toutes les fibres de mon corps, de toute mon âme.
Pourquoi, Antoine?
Mais parce que
pourquoi tu es si différent des Français?
Mais non, mais je ne comprends pas. Moi, les Bronzés, ça ne m'a jamais fait rire. Je comprends le côté culte, je comprends la réplique. Le Père Noël est une ordure, ça ne me fait pas rire. J'ai regardé le film, j'ai pas décoché un sourire.
C'est pas assez
du
léger pour toi?
Mais c'est que des personnages détestables au possible, qui sont méchants les uns vers les autres, et est-ce que c'est cette méchanceté qui devrait être drôle? Enfin, je ne comprends pas, en fait.
Ouais, mais c'est cohérent avec ce que t'aimes dans... Enfin, ouais, je comprends pourquoi toi t'aimes pas.
Moi,
c'est quelque chose que vraiment,
dans les Bronzés, c'est aussi tous des enfoirés, quoi.
C'est tous des enfoirés.
Assez égoïste.
En fait, ils ont tendance à s'humilier les uns les autres, et ils sont pas du tout dans une certaine bienveillance. Alors, ça me dérange pas de rire d'un certain malheur. On va en parler, par exemple, tu vois, dans Les Sous-doués passent le bac ou autre, t'as des scènes où, par exemple, Daniel Auteuil, lui, il perd son appart, il paume ses fringues sur un van, mais il le prend bien, tu vois, il a de l'audace, de l'arrogance, il le prend avec un peu de défi, et ça passe. Dans l'équipe du Splendid, pour moi, à chaque fois, ils ont ce truc du théâtre, et sûrement du café de théâtre de l'époque, où, en fait, l'humour passe d'une certaine forme par l'humiliation, et moi, j'aime pas.
Mais c'est peut-être plus réaliste, on en parlera par rapport aux
Sous-doués,
mais c'est... plus proche de la vie, c'est pour ça que c'est
bien
drôle, quoi.
Mais du coup, moi, j'aime pas. Je trouve que c'est vraiment... en plus, c'est vraiment le meilleur des gens à son paroxysme. Quoi.
Ah oui.
C'est SOS Détresse Amitié, il y a un suicide par balle dans une cabine téléphonique.
Au bout de 15 minutes de
Elle est terrible, cette scène.
Il y a des choses comme ça.
Mais c'est un type d'humour, après. C'est,
et je peux comprendre que ça fasse rire des gens, mais moi, ça ne me fait pas rire du tout.
À remettre dans le contexte de l'époque, c'est assez fou, quoi. Ça m'étonne pas que le film... Il n'y a pas énormément cartonné, mais ça m'étonne pas.
Moi, je le vis comme un drame social.
C'est de l'humour, noir. C'est effectivement de la caricature de personnages, mais tu as complètement raison, qui sont détestables.
La même année, tu as Le Gendarme et les Gendarmettes qui sort. Il y a quand même une différence d'humour assez hallucinante entre les deux. Tu vois. T'as l'humour à la papa et l'humour moderne. Et, et maintenant, tu as exactement la même chose avec l'humour YouTube ou avant l'humour télé-réalité.
Ouais, carrément. C'est vrai que c'est plus moderne, ça, même si c'est plus cynique, effectivement. Mais c'est ce qu'on disait au début dans les codes. Il y a un côté cynique et un côté, on se rapproche plus justement de ce qu'est la société. Mais voilà. Ma question, une dernière anecdote peut-être pour finir.
Ah oui,
parce que là, elle me fait elle m'amuse moi personnellement. La scène des huîtres, l'ermite mange ses huîtres, il est au téléphone avec quelqu'un. Est-ce que vous savez qui c'est cette personne? Quel comédien est en train de parler au téléphone? Vous le savez pas, je vais le dire. Hein.
Je sais pas du tout.
C'est Jean-Pierre Darroussin. Hein. Voilà.
D'accord.
Petite info comme ça qui se déguste. S'autorise-t-on aujourd'hui des personnages aussi loufoques que dans ce type de comédie? Est-ce qu'aujourd'hui on a des comédies françaises encore avec des personnages aussi loufoques? Moi, j'ai posé cette question parce que pour moi, non, justement.
Bah non, c'est vrai qu'on joue plus trop sur les personnages, sur des personnages aussi caricaturales et aussi forts. Bah, c'est rare.
Bah, de moins alors, en moins, moi, quoi. J'aurais dit quand même dans certaines comédies de Danny Boone dont on a, parlé, moi, je trouve quand même.
Il y a seulement le. Quasiment seulement le héros qui est comme ça, en général, dans les comédies des
Boone. J'allais dire, pense qu'ils le font encore, pas tout le casting.
La petite famille, c'est très.
C'est vrai.
C'est très caricatural, quand même.
Tu auras surtout un personnage qui sera un peu comme ça, et tout le reste du casting sera en désaccord ou en contradiction avec. C'est ça dont c'est de là.
Il y a moins de galerie, c'est vrai.
Non, mais c'est rare, je suis d'accord.
Et même la petite famille, la famille, il y a une famille contre une famille. Enfin, des riches contre des. Ils représentent chacun ces deux groupes plutôt. Là, c'est tous les personnages, à part peut-être Anémone et l'ermite, sont très différents.
Ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein. Ils sont aussi tous hyper caricaturaux dans leur rôle.
Tu vois, c'est.
Moi, d'ailleurs, c'est pas de la caricature pour moi là. C'est plus que j'ai souvent dit dans Parlons Péloche, c'est quand tu mets un adjectif épithète sur un personnage. Et c'est pas forcément pour ça que tu le caricatures, mais tu le. Ouais, c'est presque pareil, mais tu schématises sa façon de penser. C'est de la caricature. C'est carrément la même chose. Mais pour moi, il y a une subtilité différente, mais j'arrive pas trop à l'exprimer. Fouad ?
Oui, enfin, moi, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est cet humour noir. C'est que, à mon avis, tu vois, la scène de suicide dans la cabine téléphonique avec le sang qui gicle, je crois qu'aujourd'hui, ce serait compliqué de faire ça et de le diffuser à une heure de grande écoute. Et pour raccrocher à ta question, moi, j'ai été admiratif, encore une fois. Je trouve qu'aujourd'hui, il manque de rigueur d'écriture, en fait. La rigueur de l'écriture, le sens du rythme. On est de plus en plus sur des comédies qui se basent sur une tête d'affiche et basta, qu'on a déjà vu, tu vois, sur Internet ou à la télé. Et je trouve que...
Il n'y a plus trop de films de bande. Quoi.
Ouais, films de bande. Et puis, c'est de plus en plus paresseux. Je trouve que ça manque la rigueur du Splendide. Et puis, on va en parler, de Francis Weber. Il y avait un vrai travail d'écriture.
Ouais, et puis surtout, là, tu vois, toutes les répliques, elles claquent, elles sont géniales, elles sont entrées dans le coin. Là, maintenant, quand une comédie sort, tu vois, Malawa, t'as quatre répliques qui valent le coup d'être entendues, qui sont dans la bande-annonce. Et basta, tu vois, le reste, c'est du brodage, c'est paresseux, c'est du déjà vu 20 millions
de
fois.
Là, il y a un cheat code sur ce film, et je pense qu'on peut le rapprocher d'un des derniers cartons français au cinéma, c'est Le Prénom. C'est-à-dire qu'on a une pièce de théâtre, donc ils ont vachement rodé les choses parce que ça a été travaillé, et ou dans une pièce de théâtre, si t'as pas une bonne écriture de dialogue, t'as pas d'œuvre, en fait. Mais alors, dans un film, ça peut être... Tu peux utiliser la caméra, tu peux faire plein de choses pour rendre ton film bon. Et là, Le Prénom, c'est presque à rapprocher de ce film, je trouve, en termes de façon de travailler.
C'est une pièce. Hein.
Voilà, c'est pour ça.
Il y a
le dîner de con. Très commun, quoi. Et le dîner de con, pareil. Ouais.
Et ça manque un peu l'humour noir, je trouve. Ouais. L'humour noir. Parce que l'humour, c'est bien quand c'est noir. Parce que rire d'un truc qui fait déjà rire à la base, c'est un peu moins intéressant.
Après, c'est une très large question. Hein, ce que tu es en train de relever, chacun a son.
Parce que l'intérêt de l'humour, c'est de rire d'une situation qui, a priori, ne fait pas rire.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant dans l'humour.
Dans celui que.
Dans celui que j'aime.
En tout cas,
celui que j'aime.
Mais je suis assez d'accord sur ta définition.
Maintenant, on est quand même un peu plus frileux, quoi. Dès que tu vas faire des comédies. Sur des sujets sensibles ou sur des l'humour noir,
c'est
tu vois,
ça, c'est, et même c'est l'équipe du Splendide.
Ah bah bien sûr,
parce que les Bronzés 3, voilà, on est.
Ah bah les Bronzés 3, c'était clairement, enfin, on est passé dans une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est vraiment du cinéma qui ne se moque même plus de personne, c'est très ronflant, c'est ça embourgeoisé quoi, l'équipe du Splendide.
Oui, mais c'est normal, enfin, c'est des années plus tard, ils avaient peut-être besoin de thunes et ils avaient envie de refaire, de passer des vacances ensemble et de refaire un truc.
Mais tu vois, pareil pour les Trois Frères, les Inconnus, c'est 15 ans après et t'as le.
Ouais,
t'as exactement
pas.
Le même problème où les Trois Frères, je trouve que c'est une super comédie sociale ultra acide et ils essayent de refaire exactement la même chose. Mais ils ont perdu totalement la réalité de la vie aussi, c'est ça.
Ouais, c'est pas faux.
C'est ça. Hein.
Là, en plus, c'est un côté pour revenir au Splendid, où et les trois frères c'est pareil, où t'as rien à perdre en fait, t'as plus rien à perdre. Bon, t'es sur scène, t'es connu, mais t'as pas grand chose à perdre à te lancer à ce point-là dans le cinéma à tête baissée, quoi. Même si derrière il y a un réal en plus, hein, parce qu'il y a pas que l'équipe du Splendid là-dessus, il y a un réal. On passe à La Chèvre de Francis Weber. Alors La Chèvre de Francis Weber, comment ça a été synopsisé par ma mère ou mon père? Du coup, je sais pas. On écoute ça tout de suite.
C'est bon.
Le petit c'est bon.
Putain, mais ils ont mis des musiques et tout, hein.
Les sous-doués passent leur bac.
Je me suis trompé.
C'est Cosma qui fait la musique aussi.
Ouais, excellent.
La Chèvre. Film qui donne de la valeur aux gens maladroits, à ceux qui versent à côté du verre, qui prennent leurs pieds dans les fils. Être peu adroit peut aboutir à solutionner une enquête compliquée. Cette œuvre cinématographique met en valeur les inconscients qui se permettent les choses les plus folles et qui sont toujours attrapés par des durs, des vrais, des compétents. Mais attention, tout peut s'inverser.
En fait, ma mère, elle a un talent, c'est comment résumer un film pour pas avoir envie de le voir. Alors, c'est génial, j'ai quand même donné deux consignes à mon père. J'ai dit, fais des synopsis de ces trois films et fais simple. Donc, ils ont voulu faire une mise en scène et c'est ma mère qui le fait. Merci, mes parents. Voilà, La Chèvre de Francis Weber. Alors, donc merci pour ce synopsis. Donc, je vais quand même en faire un vrai parce que là, c'était incompréhensible. La fille du grand PDG Benz, très malchanceuse, se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique. Pour la retrouver, son père, conseillé par son psychologue d'entreprise, utilise un de ses employés aussi malchanceux qu'elle, François Perrin, comptable, dans l'espoir qu'il lui arrive les mêmes malheurs qu'à sa fille et qu'il la retrouve. Ma question... habituel, le nombre d'entrées en 81. Béa.
Allez, 3 millions.
3 millions.
6 millions.
6 millions.
Ouais, j'allais dire 5, mais je sais pas si
je voulais peut-être.
7 millions 78 000 624.
12 millions.
Non.
Franchement, Antoine, tu l'as pas fait exprès.
De quoi?
Parce que t'es à 1000 près là.
Oh, énorme.
C'est vrai?
T'es à 1050 près.
1050 près.
Ça fait combien? On l'a pris par cœur ou t'as.
Non, non.
Non bah bravo Antoine, donc c'est 7 079 674.
Ah, pas mal! Voilà.
Bravo!
Je sais pas s'il a triché.
Pour une fois, pour une
fois. Alors, ce qu'il faut savoir qui m'intéresse dans les chiffres, c'est que bon, déjà, beaucoup plus gros succès que le Père Noël est une ordure, alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens connaissent plus le Père Noël est une ordure, et qu'en 1983, deux ans après, en Union soviétique, le film a fait 35 millions d'entrées.
J'ai vu ça sur l'affiche Wikipédia.
Incroyable! Ouais, je sais. Et l'explication de tout ça. Je ne l'ai pas. Alors, est-ce qu'on a une
la
anecdote? Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, Fouad a dit les comédies des années 80, c'est Pierre Richard. C'est toi qui as dit ça?
Oui. Ouais.
Eh ben, il se trouve qu'à la base, ça ne devait pas être Pierre Richard. Qui devait jouer?
Jacques Brel.
Non, c'est Claude Villeray qui devait le jouer avec Lino Ventura.
Jacques Villeray et Nino Ventura.
D'accord. Voilà. Jacques Villeray, pardon, excuse-moi. Et en fait, c'est parce que Lino Ventura ne voulait pas jouer avec Villeray.
Mais il pouvait pas se
faire.
Et en plus, il y avait un désaccord salarial.
Ouais. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait.
Et autre question, anecdote un peu. Moi, c'est cette chose dans le cinéma qui me font toujours halluciner, c'est que là, à l'écran, il y a tout fonctionne dans le duo. Pourtant, Depardieu était infect sur le film. Est-ce que vous savez pourquoi il était infect? En fait, il se bourrait la gueule et tout, ça c'est un peu un classique chez Gégé, mais pourquoi?
Parce qu'il voulait jouer Pierre Richard.
Ouais, c'est fou ça. C'est fou, c'est tellement cohérent cette distribution.
Mais il le fera
dans Tais-toi.
Et il le fera parfaitement dans Tais-toi. Mais voilà, donc il a été infect sur le tournage et ça c'est le talent des plus grands, c'est que ça se voit pas du tout à l'écran.
Ah, pas du tout.
Et Pierre Richard, bon c'est parce qu'il est gentil et qu'à mon avis il accepte et tout, mais Depardieu parce qu'il est aussi ultra talentueux. Est-ce qu'on aime ce film? Je vais peut-être commencer par Antoine.
J'adore La Chèvre. Je trouve ça fabuleux. Mais je l'ai dit, moi, Pierre-Richard Depardieu, c'est des classiques. Et je trouve que La Chèvre, c'est génial. Je trouve que le synopsis, c'est trop bien. Il y a une fille qui est trop malchanceuse. On va prendre quelqu'un de trop malchanceux pour qu'il tombe dans les mêmes pièges pour essayer de la retrouver.
C'est une idée gogole. Et c'est trop bien, les idées gogoles.
Une idée débile, mais qui marche trop bien. Et en fait, ce qui marche dans ce film et ce qui est rigolo, c'est pas le fait que Pierre-Richard soit malchanceux, c'est que Depardieu. on lui dit qu'il est malchanceux, il veut pas y croire du début.
Et la chance, fait, ça n'existe pas.
Oui, c'est ça. Et c'est toute cette relation avec ce postulat de base et son conflit interne et ses machins et sa relation qui se crée aussi avec Pierre-Richard. Ce côté où, en fait, ils sont un peu au final grand frère, petit frère, tu vois. Depardieu est tout le temps en train de veiller sur lui parce qu'il se rend compte que oui, effectivement, il y a des merdes. Et puis il s'y habitue, puis il veut pas y croire. Et puis il a beau essayer de le conseiller, ça ne marche pas.
Et il y a un délire aussi qui est fou, c'est que Pierre-Richard prend grave la confiance parce qu'on lui confie un truc et qu'il connaît pas l'envers du décor.
Il fait trop bien le mec.
C'est génial.
Pierre Richard, pour lui, il est pas mal chanceux.
Vous avez de la chance.
Il dit mais j'ai tellement de chance. Vous rendez compte, j'aurais pu rester comptable. Mais non, mais là, je suis au Mexique. Ouais. Tu vois, je suis tellement chanceux dans ma vie.
Il y a ça, c'est le gars qui prend la confiance et sa vraie nature qui dit vous me trouvez comment en enquêteur et tout. C'est génial. De toute façon, Pierre Richard, t'as envie de le prendre dans tes bras.
Mais
vous m'avez traité d'abruti là.
Ouais, vous avez de la chance. Vous avez de la chance.
Parce qu'on m'a appris le contrôle. Tu vois, et moi, c'est ce genre de truc qui me font rire et autant
excusez-moi pour cette démonstration de force.
Et autant je disais que dans Le Père Noël est une ordure, j'aime pas qu'on se moque du meilleur des gens, mais là pour moi on se moque pas tellement que ça du malheur de Pierre Richard parce qu'il a une certaine candeur, c'est très gentil, le film est très bienveillant envers Pierre Richard et du coup ça passe beaucoup mieux et c'est ça que j'aime moi. C'est quand un film est bienveillant avec ses personnages.
Il y a quand j'étais petit, parce que c'est un film que je vois depuis tout petit, la scène de la guêpe m'a toujours marqué parce qu'en fait, je trouve que cette guêpe est énorme, que la gueule de Pierre Richard, enfin tout est parfait. Vous savez que Pierre Richard avait très peur de tourner cette scène parce que le peur de se faire piquer, mais en fait, ils ont retiré le dard. Donc la bête avait pas de dard, sauf que ce que la prod savait pas, c'est que les guêpes mordent aussi. Donc ils se faisaient mordre la gueule par la guêpe pendant toute la scène. Du coup, ils souffraient vraiment. C'était voilà. Le petit dessous qui fait toujours bien plaisir. Béa, est-ce que tu aimes la chef?
Oui, mais alors je suis comme vous, j'adore Pierre Richard. Et ce duo avec Gérard Depardieu, tu l'as dit, fonctionne très bien. Et moi, j'adore Depardieu de cette époque-là, parce que c'est le Depardieu qui ne se caricaturait pas encore.
Il reste bon aujourd'hui, moi, je trouve, Depardieu.
Oui, mais aujourd'hui, il fait vraiment du Depardieu. Et à l'époque, tu vois, il faisait le dernier métro, c'était la femme d'à côté, enfin voilà, et oui, et alors ce duo, donc là c'est Perrin, mais il y en a d'autres où c'est Pignon. C'est Weber, c'est lui qui a commencé avec en 73, il a fait L'Emmerdeur avec Jacques Brel, Lino Ventura et Dédé Molinaro, et c'est le début, quoi. Alors il était que scénariste à ce moment-là, mais et en fait on les voit à travers sur plein de films, Perrin ou Pignon avec l'homme fort. Et enfin voilà, tu l'as dit, c'est très bien écrit, le scénario il est original, on est tout de suite dans le sujet et dans les péripéties, je trouve que c'est un vrai film d'aventure, on voyage,
parlons de la BO un peu aussi.
On voit, oui, la musique elle est, deuxième, c'est un peu comme dans les,
c'est Vladimir Kosma,
deuxième BO avec de Vladimir Kosma,
mais c'est un peu comme dans comme dans les Tontons Flingueurs, la petite musique qu'on a tout le long du film et qui de façon différente avec des orchestrations différentes, et c'est rigolo parce que finalement c'est une idée con, les péripéties, les gags, on les voit arriver, mais il y a le jeu des acteurs qui fait tout en fait, qui fait tout le ressort comique du film. Donc, alors on voit quand même que c'est quand même daté dans l'époque, notamment dans les rapports avec les prostituées, les rapports avec les homos. Enfin, c'est l'époque.
On est en 80,
voilà. Mais non, c'est vraiment un plaisir à revoir et c'est quand même très drôle cette Corinne Charby qui roule comme une boule de flipper.
Qu'est-ce qu'elle
joue mal.
J'ai halluciné quand je me suis dit, c'est Corinne Charby.
Heureusement, ça va, elle a une...
Corinne Charby, c'est qui, elle fait
c'est, qui la fille, c'est la fille qui disparaît,
ah,
bon, en fait.
C'est Corinne Charby, c'est qui chante. Moi, j'aime bien En rouge et noir, moi. C'est Vice Versa, la chanson de Corinne Charby. Voilà, je trouve que c'est un très bon titre.
C'est Jeanne Masse.
Non, Vice Versa, moi, pardon. Pile ou face.
Pile ou face.
J'adore cette chanson, mais je connais pas le titre.
Pile ou face.
Pile ou face, voilà. De Corinne. J'allais dire que moi, en fait, je me suis rendu compte que j'arrête pas de dire que j'aime beaucoup Vincent Macaigne pour les mêmes raisons que j'aime Pierre Richard. Pierre Richard, c'est 10 000 fois encore au-dessus, mais même Vincent Macaigne dirait que c'est 10 000 fois au-dessus de lui parce que Pierre Richard, c'est ça, mais c'est incarné sans avoir vraiment à jouer. Et ça, c'est une grosse force. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'adore ces acteurs qu'on caste et on sait pourquoi on les caste. En fait, bon, Pierre Richard, il y a pas tellement de, on sait très bien ce qu'il va faire et parce qu'en fait, personne peut le faire mieux que lui. Et je trouve que Vincent Macaigne, ça, on peut rapprocher un peu les deux copains. Fouad.
J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Richard à la comédie, au Festival Comédie Lille, en mai dernier, et donc d'assister à sa masterclass. Donc pendant une heure et demie, il a parlé de sa carrière. Et pour moi, elle est digne de Chaplin. Pour moi, il est dans la lignée de Buster Keaton, Harold Lloyd et Charlie Chaplin. C'est un génie du burlesque. Et comme tu regardes sa tête, t'as tout compris.
Rien à faire,
C'est vraiment, il est drôle, intrinsèquement drôle. C'est un enfant du pays. Il est né à Valenciennes.
Ouais.
Donc, represent. Et c'était vraiment très émouvant de le voir.
T'es déjà malchanceux à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai. Dès le début, dès la naissance.
Et pour en revenir à La Chèvre, vous avez tout bien résumé. Le film repose effectivement sur son duo. Et à la fois, ce qui rend crédible Pierre Richard, ce sont les réactions de Depardieu, en fait. C'est ça qui fait marcher le film. Et c'est un vrai duo digne de Laurel et Hardy, vraiment des plus grands duos comiques. C'est que Pierre Richard est drôle parce qu'en face, la réaction, le jeu de Depardieu, incrédule, complètement...
Il n'a pas un rôle facile.
Il n'a pas un rôle facile parce qu'il ne joue qu'en réaction. Et c'est un film qui est une grande leçon là-dessus. C'est-à-dire que jouer, c'est aussi réagir. C'est surtout réagir. Et on rend pas... Enfin, je pense qu'il faut souligner encore le jeu de Depardieu parce que c'est le jeu de Depardieu qui rend crédible, qui rend drôle.
Dans tous les sens du terme, c'est un film de duo. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et il est un peu les yeux du public de Depardieu.
Ouais.
Et ce que j'adore avec Weber, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il a fait avec Le Placard, le film qu'il a fait avec Gad Elmaleh là. La
doublure.
La doublure, c'est millimétré, quoi. C'est écrit aux petits oignons. C'est une machine de guerre, les scénarios.
Ah, tais-toi.
Tu vois, ouais, c'est ça.
C'est majestueux.
Donc, chef-d'œuvre.
David Marmignon.
Bon, vous avez un peu déjà tout dit. Moi, j'adore le point de départ que je trouve vraiment absolument génial. Je trouve pas que c'est une idée gogol. Je trouve que c'est une idée de génie.
Ouais, c'est vrai. C'est du génie gogol.
Voilà, c'est ça.
Le génie et le gogol, c'est pas très loin.
Et pour un film de 81, je trouve que c'est un film qui est plein de modernité. C'est-à-dire qu'en termes de situation, de gag, etc., on est clairement dans une nouvelle génération. Et c'est la première fois qu'ils sont ensemble, Richard et Depardieu.
C'est le premier.
Ça marche.
Deux ans après Les Fugitifs, je crois.
Et après Les Compères. Après, il fera 20 fois le même film, Weber, au final. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il arrive toujours à trouver cette... Enfin, il a vraiment la formule magique, quoi. À part dans Le Jaguar, qui est très compliqué. Ouais. Mais et donc, je trouve que le film, il pêche un peu niveau rythme. Ça s'essouffle un peu aussi sur la fin. Mais l'équilibre des blagues est parfait. En fait, ça tombe jamais dans la lourdeur. Ça arrive toujours bien. Et justement, on parlait du remake américain. Il y a qu'à voir la bande-annonce. Tu sais qu'ils y vont à fond dans la lourdeur. Et c'est pour ça que ça marche pas, en fait.
Ouais, c'est toujours un peu... Ben, on a pareil pour Le Dîner de cons. Au final, les remakes américains, souvent... En fait, je crois que ceux qui s'emparent de ces projets-là comprennent pas l'essence de l'humour français. Et à partir de là, c'est compliqué.
Et ben, voilà, comme disait Béa, c'est vrai que le film, il est un poil sexiste. Mais
c'est l'époque.
Enfin,
c'est ce que disait Thomas tout à l'heure. Les rôles de femmes, c'était ça. Enfin.
Ouais, c'est des rôles de fonction. C'est horrible. Mais le seul rôle féminin qu'on a, c'est une meuf qui se casse la gueule et une pute. Donc c'est pas fou.
Et petit plaisir, c'est que tous les donc ils sont au Mexique. Hein, tous les Mexicains sont doublés par des superstars du doublage français. Du Richard Darbois, t'as du Alain Dorval et tout. Donc du coup c'est un vrai plaisir. Enfin vraiment, c'est
crédible. Alors que c'est pas cohérent que ça parle français et tout, mais ça pose pas de problème.
On s'en fout. Mais voilà, c'est vraiment la comédie qui va repasser tous les ans et que tu vas revoir avec plaisir. Et là, franchement, tu vois, c'est La Chèvre, c'est vraiment le truc où je me dis, oh, je l'ai vu 20 fois, La Chèvre, j'ai pas besoin de le revoir. Mais par acquis de conscience et professionnalisme, je l'ai revu et j'ai redécouvert entièrement un film. Parce que dans ma tête, Les Compères, Les Fugitifs, La Chèvre, ça devait se mélanger. Moi, j'ai lancé La Chèvre en pensant que c'est qu'ils allaient rechercher de leur fille, tu vois.
C'est ça.
Et vraiment, enfin, c'est vraiment du cinéma à la papa, mais du cinéma qui les fait très bien, quoi.
Mais justement, pourquoi ce genre de film d'aventure français, buddy movie à la française, pourquoi ça a disparu pour moi? J'arrive pas trop à en citer des récents, à part Le Boulet. Moi, j'ai Le Boulet dans la tête. Mais vous en avez, vous, en tête pourquoi ça a disparu alors que ça marche, quoi, parce que...
Bah, après, t'as Intouchable, tu vois, un peu en mode buddy movie.
Il n'y a pas aventure, il n'y a pas le côté aventure.
Malawa, c'est qui vient de sortir, là. C'est un peu... Ouais, je suis désolé, j'ai été marqué par ce film, mais
c'est l'adaptation de Rendez-vous en terre inconnue.
C'est ça, ouais, c'est vrai.
C'est pas buddy, c'est pas...
Ils sont quatre, et ils se détestent autant que se détestent les personnages du Père Noël est une ordure. Et t'as de l'aventure.
Mais est-ce que c'est pas trop ambitieux de devoir trouver des personnages intéressants, leur faire vivre une aventure, donc c'est-à-dire faire scénariser le délire, et en plus leur donner une personnalité qui fonctionne dans le cadre d'une aventure. Est-ce que c'est pas justement peut-être trop exigeant qui fait qu'on se fait plus chier à faire ça?
Peut-être.
Puis là, autre chose que du buddy movie, c'est qu'ils sont pas potes à la base, tu vois, c'est qu'ils sont tous les deux parachutés l'un avec l'autre. Mmh.
Il y a une relation qui se crée.
Ouais, c'est pas... cette relation qui se crée qui est intéressante. Puis, donc, je sais pas si... Non, je pense pas qu'aujourd'hui, ça existe à nouveau.
Non, puis la comédie est surtout basée sur, c'est un dérivé de la télé, souvent. Mm. C'est les Malawa, c'est l'adaptation d'une émission de télé. Ce sont des stars qui viennent de la télé. Et parce que le cinéma français, aujourd'hui, est beaucoup financé par la télé. Donc, c'est peut-être une explication. Là, il y a une comédie là, de Michel Denisot, qui est animateur télé, qui fait un film sur un animateur télé. Bon, ça vient peut-être de là, quoi.
Il y a des élans, des projets plus indépendants. On en a fait un, nous, qui était La Loi de la Jungle.
Oui,
peut-être
mais très,
plus
très
se
bien.
Rapprocher de ouais. ça.
Parce qu'en plus, c'est l'aventure, oui. quoi.
Enfin, ouais, ouais.
Et même l'imagerie ouais, fait penser à ça.
Mais on revient, en fait, à cet humour burlesque, en fait. C'est ça ouais. aussi. Weber, il a beaucoup de burlesque.
Ouais,
il utilise Pierre Richard. C'est en fait ça. C'est l'absence du burlesque aujourd'hui dans l'humour moderne, on va dire, d'une certaine manière.
Après, un peu Les Gamins, qui l'a un peu fait. Il y a une petite aventure dans Les Gamins, mais qui n'est pas aussi profonde que ça, parce qu'ils vont tourner un clip avec une petite fille. Mais dans Les Gamins, il y a un peu ça, de Marciano. Bon. Mais ça a disparu. Donc, moi, on est très influent avec Parlons Péloche maintenant.
Oh, oui.
Donc, c'est
cri
un cri du cœur.
Refaites
au cinéma français.
Refaites. Enfin non, ne faites pas un remake.
Faites vivre des choses à vos personnages, en fait. Ne contentez pas juste de créer du perso, voilà. Ou alors c'est nous qui nous en chargerons quand on fera enfin Parlons Péloche, je movie. Parce que c'est dans les cartons, les amis.
Ce sera moi le grand méchant.
Ah oui, oui le grand méchant, mais le grand méchant...
Sympa quand même. Malchanceux.
Ouais, voilà. Tu ferais quel rôle, toi, Antoine, dans un film?
Oh, je pense celui qui tient le générique de fin.
Ou un mec qui sert un sandwich à un moment. Mais ça peut être... Non, je sais pas. Mais est-ce que vous voulez voir ça? Notre tweetos, un film où on est les héros? Je suis sûr que oui. Les Soudoués passent leur bac de Claude Zidi.
Oui, ce serait ça. Ouais. Ce serait Les Soudoués. Ouais.
Alors, il y a un truc, un remake. Fun fact vraiment marrant sur ça, c'est que si tu rechanges une lettre à Zidi, ça fait Zizi. Alors, le clip, le synopsis de mes parents.
C'est vraiment la fin de journée.
Je regrette vraiment d'avoir fait cette séquence. Hein. Ils me déçoivent
les
constamment.
Les Soudoués passent leur bac. Enfin, l'éducation nationale dévoile sa véritable identité.
Elle a pas
prof universel, spécialiste en rien du tout, élèves inconscients de leur avenir, mais trouvant le moyen de réussir en employant des méthodes frauduleuses pour ne pas rater leur bac. L'intégration des personnes du troisième âge qui désirent encore se former laisse perplexe la jeune génération.
En vrai, je trouve ça trouvé ça bien.
C'est trop bien.
Ça fait un requiem derrière.
C'est la musique derrière qui est énorme.
Et puis la meuf qui a pas envie de le faire. Tu t'imagines.
Elle est prise en otage.
La plus mauvaise boîte de distribution du monde, quoi. C'est pas.
Voilà, on a fait un film. Bah voilà.
Bon, c'est pas.
Allez-y si vous voulez.
Ah putain. Les élèves d'un cours privé multiplient les facéties et tentent de décrocher leur baccalauréat sans se fatiguer. Question anecdote sur le film. Elle est géniale, ma question anecdote. Le vieux Léon. Jumeaucourt. Dans son cours de chimie, il écrit au tableau CI2HC-CHCI2 et il commande par CI2HC-CHCI2 donne trichlorétylène et HCI.
Alors je pense que c'est CL et pas CI déjà.
HCI, non, HCI. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, t'es sûr de toi, Antoine?
Non,
c'est la recette pour faire une bombe ou...
Bah, c'est pas loin de ça. En fait, c'est il aurait jamais dû dire ça en cours parce qu'il fait aucune remarque sur l'extrême toxicité du produit. Le signe moins est le symbole d'une liaison chimique de tétrachloréathane et non celui d'une réaction chimique comme semble le supposer le professeur. Le signe moins n'est jamais employé dans une réaction chimique, il donnerait un résultat nul dans cette hypothèse puisque CI2HCHC et CHCI2 désignent la même substance. Tu l'as pas vu cette incohérence, Antoine? Il y a un mec sur Allociné qui a écrit ça dans les anecdotes sur le film.
Alors j'espère que vous avez tous bien écouté puisqu'on fera un contrôle dans 15 jours.
C'est incroyable. C'est la seule anecdote que j'ai trouvée intéressante.
C'est trop bien.
Alors, combien de gens sont allés voir ça en 1980? On fait un rappel, c'est normalement 1,5 million pour le Père Noël est une ordure et 7 millions pour Francis Weber. À votre avis,
79 684.
Ok, bah, je vais dire 3,5 millions.
2 millions.
4 127 822.
8 millions 2.
C'était 3 millions 9, donc 4 millions, mais du coup c'est plus BA, donc 4 millions, 3 millions 900, quasiment 4 millions. Mais je pensais pas que ça avait fait un tel score à l'époque. Moi je pensais pas que ça avait cartonné les Sous-doués. Je pensais que c'était que dans ma petite tête que c'était le cas. Est-ce qu'on aime ce film ?
Et d'ailleurs ça a changé de titre, parce que normalement c'était juste Les Sous-doués. Ouais. Et oui. En fait, comme après ils ont fait Les Sous-doués en vacances, et ben ils ont rajouté Les Sous-doués passent le bac.
Tout à fait, Béatrice.
Voilà. Moi aussi j'ai des anecdotes.
Non, non, mais en plus en vrai, on va pas se mentir, elle est mieux que la mienne, quoi, parce qu'elle est quand même plus intéressante et plus facile à ressortir surtout. Fouad, tu as découvert ce film grâce à moi, c'est ça ?
Alors non, je l'ai vu dans les années 80, chez mon pote riche Jean-Pierre Bellotto, ouais. Celui qui avait deux magnétoscopes et deux télés dans sa chambre.
On le connaît, Jean-Pierre, oui, c'est vrai. Ouais.
Et notre peuple vaincra. Ouais.
C'est complètement génial, ça.
Et là, j'adore ce film, j'adore. J'adore, c'est con, c'est drôle, mais c'est drôle, et c'est super drôle. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que tu vois principalement des super acteurs, quand même. Tu vois, t'as quand même Daniel Auteuil, t'as Maria Pacôme, t'as
quand même Richard Bohringer qui fait un rôle.
T'as des acteurs capés quand même.
Quasi personne a fait carrière.
Et ouais, beaucoup.
Aujourd'hui, il y en a un qui est décédé et personne a fait carrière.
Et c'est drôle, c'est parce que je l'ai vu, je pense que je dois avoir une dizaine d'années, 12 ans quand je l'ai vu. Donc moi, pour moi, le bac, c'était, tu sais, quand t'as 12 ans, le bac, c'est
le Graal,
Harvard, quoi, ouais, tu vois. C'est un truc, c'est une barrière importante. Et puis, ce que j'adore, c'est le côté, c'est loufoque. Tu vois, c'est le côté gag visuel. Autant on a traité de films qui étaient très basés sur l'écriture, et j'ai l'impression que c'est un peu l'ancêtre du teen movie. Ouais. T'as l'impression de voir un teen movie avant l'heure avec Les Sous-doués et avec un Daniel Auteuil qui est super attachant. C'est bourré de clichés, et c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que bon, voilà, l'arabe est un terroriste. Et sa bombe, c'est quoi ? C'est une couscoussière, évidemment.
Ouais, on
et
le black fait du tam-tam.
Et le black fait du tam-tam.
Oh, oui, j'ai halluciné quand j'ai vu cette scène.
Mais voilà, mais c'est l'époque.
C'est un peu chaud, là, quand même.
Alors, moi, j'adorais le black parce que c'est un diplomate, je crois. C'est un fils de diplomate avec le carnet dans le talon de la chaussure. Ouais. Enfin, les blagues, enfin, les idées pour gruger sont super drôles, quoi. C'est du bonheur. Et même s'il a bien vieilli, c'est super drôle parce que tu peux pas t'empêcher de le revoir avec le souvenir qu'il t'a laissé quand tu l'as vu la première fois. C'est vraiment, c'est ma petite Madeleine, Les Sous-doués.
Ouais, moi c'est pareil, moi c'est un côté sensoriel en fait, ouais, ça grave. Me rappelle des sensations que j'ai vécues à l'époque.
Ça.
Et puis voilà, puis des trucs qui sont juste débiles, tout simplement cons, je veux dire, ils vont faire l'amour dans l'armoire tombe, ils sont tous habillés, alors qu'ils sont en train de faire l'amour. Alors le quebla qui pisse dans le bureau, et tu rentres dans une pièce, tu fermes les yeux, tu pisses à travers tout. Il y a une grosse incohérence dans cette scène, Antoine, je sais pas si tu l'as. Mais la porte est dans le coin quand il rentre dans la porte, et quand on le voit dans la pièce, la porte est au milieu du mur alors qu'elle est dans un coin du mur. Voilà, c'est une incohérence qu'il y a dans...
Moi, je pensais que tu allais me dire que c'était pas le même tapis avant et après, mais
non, c'est pas
moi qui l'ai vu, ça.
J'ai une petite anecdote. Le café où il se retrouve à la fin du film se situe en face du château de Versailles. C'est à Versailles qui se situe.
Ok, bah voilà, l'anecdote est dite. Le 10 ans
c'est
après, voilà.
La place des grands hommes. Vu qu'il se retrouve 10 ans après.
Oh, il est fort, et c'est pour ça qu'il a la parole, c'est David Marmignon.
Pour moi, c'est le plus difficile.
Oh, t'as mué.
Enfin.
Et ça se passe en direct.
Vous l'avez vécu en direct.
Mon fils.
C'est le plus difficile de la liste pour moi. Non, comme tu dis, j'ai pensé... Je me suis dit, en fait, c'est le American Pie 20 ans plus tôt,
ouais.
Français.
C'est
quoi.
Ça, ouais. Ça
c'est pas Sexy Boys, le American Pie français. C'est Les Sous-doués. C'est très très potage, donc du coup le côté succession de sketch m'ennuie un peu, tu vois, parce que tout n'est pas au même niveau, mais c'est justement le côté très BD du truc, t'as l'impression de voir des gags Gaston Lagaffe en fait quand tu regardes le film. Mais le meilleur, c'est Galabru, il est on fire tout le long du film, puis c'est plus Galabru qui joue un rôle, c'est Galabru qui joue Galabru, et je trouve que le meilleur avec Galabru, c'est quand il fait oh crochot, tu vois, des trucs comme ça, je limite mal, mais
ça va,
c'est génial,
les meilleurs que mon de Funès, hein.
Tu vois, et tout le final à coup de triche. En fait, tu vois, moi je pensais que dans mon souvenir, tout le film des Sous-doués, c'était ils essayent de tricher. Ouais. En fait, non, la plus La grosse partie du film, c'est juste des connards qui font chier, ouais. Qui font chier les profs. Ouais.
C'est comme ça. Maman, j'ai raté l'avion, il passe pas son temps à faire des pièges. Ouais, c'est un peu le même.
Exactement. Donc c'est un film qui est assez inoffensif, même si tu retrouves bien des relents de racisme et de sexisme, ouais, de l'époque. Tu vois.
Ah oui, non mais.
Et j'ai halluciné, je ne savais même plus que Maria Pacom jouait dans.
Ah, elle est géniale.
Jouait dans Maria Pacom, c'est super.
Pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui.
Je vais les mater. Je peux pas avoir de recul avec ce film. Je peux pas être dans l'analyse. C'est mortel.
C'est un témoignage de l'époque. Enfin, moi, j'adore voir. On a aussi un peu ça dans Le Père Noël est une ordure. Toutes les scènes tournées en extérieur en France.
Tu l'es. J'ai tabatchoumé.
T'es radio d'abord. Mais toutes les scènes qui sont situées dans la France de l'époque, et tu vois vraiment que c'est pas du tout une société moderne à ce moment-là. Ouais, enfin, que le lycée soit dans une maison de campagne, enfin une maison de famille, je savais même pas que ça existait. Ouais. Ça. Est-ce que ça existait vraiment? Puis c'était l'époque où on pouvait faire des blagues avec des bombes et des explosions. Maintenant, ça passerait plus tellement. Plus si bien. Mais
ou même une directrice qui met une claque à un élève.
Oui.
La maltraitance.
Ah bah ouais, c'est fini. Ouais.
Et puis ouais, non mais c'est un film que assez inoffensif. C'est... Enfin, moi je le classerais un petit peu. Enfin, il est dans une échelle un peu bizarre. Il est en équilibre entre la comédie inoffensive et un petit peu le nanar quand même.
Mais je vais le rapprocher d'un film qu'on a testé dans les comédies américaines des années 80, c'est Police Academy.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est un film à sketch. Ouais. Sauf que on préfère tout, je pense, Les Sous-doués, mais après c'est parce qu'on est français aussi, peut-être, je sais pas. Mais je vais donner un exemple, le coup de Il m'a gaulé ma meule. Donc pour ceux qui auraient pas vu le film, parce qu'on précise pas grand-chose depuis le début sur ce film, pour ceux qui l'auraient pas vu, il y en a un qui se fait toujours voler sa bicyclette par le même mec qui lui revend à chaque fois. Et du coup, il y a un running gag pendant tout le film avec ça. Donc ça, c'est un sketch dans le film, parce que ces deux personnes-là, si on regarde bien, ils ont quasiment aucune relation avec les autres élèves. On voit que eux deux comme ça. Et Police Academy, il y a un peu de ça dans la façon dont c'est construit, sauf que là c'est moins chaotique que Police Academy. Il y a quand même un fil conducteur, c'est le bac et une boîte à bac pourrie qui veut essayer de avoir le...
Tu vois, il y a BD Les Profs, ça pourrait être une BD Le Bac, tu vois,
ouais, c'est
BD Les Sous-doués, comme il y a 25 tomes de la BD Les Blondes, tu vois. C'est pour moi ça se joue là-dessus, quoi. On est vraiment dans le truc sympatoche, quoi.
Quelle mention on a eu à notre bac? C'est le petit happening, Béa.
Je m'en rappelle plus. Bon, j'ai pas eu de mention. J'ai dû une mention non, normale.
Passable.
Enfin, pareil, mention passable.
Passable.
Ouais.
Je crois que j'ai eu bien.
J'ai eu bien.
Mais
et moi, bien, évidemment.
Tu sais que... Attends, je vais remuer. Le film m'a foutu une angoisse d'aller voir passer le bac, réviser. Je me suis dit, s'il fallait que je refasse des examens et repasser le bac maintenant, ça serait une
galère. Tu saurais que quand tu fais CI2HC, moins CHCI2, il faut pas qu'il y ait un moins.
J'ai vérifié, c'est bien CL, hein, c'est du chlore. Hein. En fait, c'est majuscule et L minuscule.
Ah ouais, du coup, ouais, c'est ça. Mais après, bon, j'ai fait un bac ES. Voilà.
Y a pas de souci.
Antoine, les plus grands.
Et évidemment.
Antoine, le film.
Le fameux.
Keynes. Le ketchup.
Moi, j'ai fait
Antoine.
Moi, j'ai fait un bac sec pas. Et donc, moi, j'adore Les Sous-doués passent le bac. Je l'avais déjà dit. J'avais déjà dit ici quand on nommait des références, peut-être pour les comédies françaises.
Si, ouais, je me souviens.
Et j'adore Les Sous-doués passent le bac. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a ce côté où en fait, Mara Paco, mais là, je vais les mater, je vais tout faire. Et en fait, eux, ils sont dans la rébellion juste pure et dure. Ouais. Et c'est pas la rébellion méchante, ils veulent pas lui faire du mal, ils veulent juste la faire chier. Et c'est marrant parce qu'ils sont en fait dans cette compétition.
Ils pourraient la tuer, en fait,
c'est ça. Ouais, mais après, elle ramène quand même une machine de torture.
Il n'y a pas de limite.
Machine américaine, là, c'est ça. Là.
Alors, sachant qu'elle se trompe, la machine, parce qu'elle dit que la Constitution. L'ONU.
C'est l'ONU.
T'es en 54, alors que c'est 51.
Elle dit 42, et alors que c'est 45.
Voilà.
Ouais, voilà. Mais bon, c'est.
Je suis très bon en histoire. J'ai fait un bac ES.
Et du coup, c'est tous ces petits gags, tout ce côté un peu rébellion où d'un côté ils se rebellent et de l'autre côté eux aussi répondent, hein, quand ils les bloquent avec la douche, dans les toilettes, machin et tout. Il y a des trucs vachement malins où en fait c'est ce petit jeu on vous emmerde, ouais, qui est très canaille.
Voilà, tout ce film-là. C'est
ça. Et donc moi ça me fait beaucoup rire, je trouve qu'il y a un très bon rythme quand même dans le film, ça s'enchaîne très bien, et avec ce fameux passage où ils ont tous les idées les plus géniales pour réussir, je trouve que cette relation d'adolescence, comme l'a dit Fouad, hein, c'est un teen movie avant l'heure, c'est, je trouve que c'est très rafraîchissant, en fait.
Il y a une bande-son très particulière. Elle est très particulière. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, en revoyant, elle m'a un peu saoulé, parce que j'étais un peu fatigué, mais elle est très particulière. Elle mérite d'être un peu à part, un peu électro Jean-Michel Jarre, on sait pas trop, c'est chelou. Béa, est-ce que tu as ce film dans ton carnet des petites tendresses?
Ouais, parce que c'est très con, mais c'est très drôle. Donc, ça se prend vraiment pas au sérieux. Enfin, vous avez déjà tout dit. Il n'y a rien de réaliste, c'est que des blagues potaches. Mais voilà, c'est... Ouais, ça fait de mal à personne. Maria Pacôme, encore une fois, j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'on retrouve un peu le même esprit quelques années plus tard dans Prof. Patrick Schulman, que du coup, je redirai pas dans mes... Oui, j'adore ce film, mais je reparlerai pas dans mes références, mais il y est, en fait.
Je le ferai.
J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Et donc voilà, je trouve qu'il y a un peu cet esprit-là...
Pas crédible, mais on s'en fout.
Pas crédible, mais on s'en fout. Bon, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même vite fait une critique de la jeunesse dorée, des boîtes à bac et des boîtes à fric. Bon, c'est vite fait, hein, mais non, c'est sympathique. Voilà, c'est pas... Pour le coup, moi, je l'aurais pas mis dans mes références de films comiques des années 80, mais c'est agréable à regarder, quoi. C'est marrant.
Moi, ma question, du coup, la comédie naïve a-t-elle disparu? Parce que là, on peut pas en parler de comédie naïve. Mais on n'en voit plus, moi, je trouve.
Ah oui, mais c'est vrai.
La loi de la jungle, encore une fois, était un peu naïve sur ce plan-là. C'est-à-dire, on s'en fout de la cohérence.
Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est là à dire « Ouais, mais c'est pas réaliste. Ouais, ça peut pas exister et tout. » On est plus critique là-dessus. On a perdu un petit peu ce côté... je vais le prendre comme ça vient et c'est pas grave, mais nous les premiers, hein, quand on fait c'est un truc de cul que t'allais dire,
ouais, évidemment.
Forcément,
évidemment.
Mais nous les premiers, quand on fait nos petits retours sur les films, on est là, ouais, mais c'est pas cohérent, ouais.
Part voilà. Antoine, mais sinon ouais,
non mais je veux dire, on le fait tous et c'est dommage, en fait. C'est un des débats qu'on a qu'on a de temps en temps, mais c'est dommage de pas le prendre comme ça vient, et puis on s'en fout si ça marche pas, quoi.
Tu vois, moi, Docteur, je trouve que c'est un peu une comédie naïve.
Là, je suis d'accord. Ouais, c'est marrant parce que c'est quand j'ai préparé l'émission, je voulais en parler, j'avais oublié. Ouais, Docteur.
Tu vois, c'est un enchaînement de sketch. Bon, ça.
Parlons du principe de Docteur, hein, c'est un docteur qui peut plus se déplacer, donc il reste dans sa voiture et avec une oreillette Bluetooth, il envoie à Kim Gemini, qui est livreur Uber Eats, pour faire les soins. Du coup, c'est con, le principe est con, tient pas de
coup. Oui, mais ça marche très bien.
Si ça marche comme une succession de sketchs où à chaque nouvelle porte, il y a une nouvelle situation.
C'est un nouveau cas, quoi. Ouais.
Mais bon, d'ailleurs, on est en 2019, donc du coup, c'est plus écrit, c'est un peu plus réaliste, t'as toute une histoire derrière. Ça fait pas un peu moins enchaînement de sketch, mais
ça tant mieux. Mais
tu vois, Brice 3, c'est une comédie très naïve.
Ouais, c'est vrai.
C'est dans un univers. Mais
même Brice 1.
Ouais, c'est ça. C'est très, très naïf. Et t'as ces petits moments de tendresse un peu suspendus où t'oublies que tout ce que t'es en train de regarder est complètement débile et t'es un peu touché par le personnage, tu vois. Donc, pour moi, ça existe encore. C'est sûr que ça marche un peu moins bien que...
Ouais. Est-ce que la bande à Fifi dont voit des fans, c'est pas un peu ça? C'est pas un peu naïf, justement, sur certains
points? Oui, c'est vrai que c'est assez naïf, c'est assez cartoonesque. Mmh. Et moi, j'avais oublié, j'adore la bande à Fifi, en fait. Je trouve qu'ils ont créé une école à eux tout seuls. Et j'aime beaucoup leur style. C'est vrai qu'il y a beaucoup de naïveté et de candeur dans leur humour.
Et pourtant, c'est très moderne, mais ça plaît en plus à un jeune public. Et pas que, hein, mais ça plaît aussi à un jeune public, donc on peut qualifier ça de moderne. Donc ça existe encore un peu, mais moins, voilà. C'est un peu ça, de toute façon, qu'on est forcément dire. On doit faire un choix, maintenant, choisir un film parmi la sélection. Je vais choisir La Chèvre, moi, parce que voilà.
Ah, elle est sous-douée.
La Chèvre.
Le Père Noël.
Ou la Béa. Le poids repose sur tes épaules. Tu peux soit faire une égalité,
Je vais dire La Chèvre, parce que j'ai pris plus de plaisir à le revoir. Mais je pense quand même que Le Père Noël est une ordure et juste parfait, quoi. Enfin... Voilà. Mais je vais quand même dire La Chèvre pour le plaisir que j'ai eu à le revoir.
Et on va vous donner d'autres choses à revoir avec plaisir dans nos références, dans la séquence qui s'appelle...
You Fuck My Wife.
C'est terrible.
Je suis désolée. J'ai tellement envie de te dire que t'as de beaux yeux, tu sais.
Voilà.
You Fuck My Wife.
What?
You Fuck My Wife.
Le You Fuck My Wife. Donc après avoir vu trois films de référence, on a pu faire un peu le tour de la comédie française du début des années 80 principalement. Nous allons nous intéresser à nos références autour de la table. On va pouvoir déborder vers 88-89. Je pense qu'on va parler un peu de La Vie est un long fleuve tranquille. Quelles sont vos comédies françaises de référence dans les années 80 et pourquoi? Peut-être David?
Papy fait de la résistance. On est encore sur la même équipe de Jean-Marie. Après, tu vois... C'est pas ma période de prédilection, les années 80 en France. Je suis plus comédie américaine dans les années 80. Mais bon, je vais rajouter sur là-dedans, je vais rajouter La Soupe aux Choux, ouais. Qui moi, je trouve que c'est vraiment.
Ça m'étonne pas de toi.
Non, mais en dehors des proutes.
Le glow.
Oui, c'est que des proutes.
Non, il y a un vrai discours super émouvant sur la vieille France, la modernité, et de Funès et Carmé sont super émouvants.
Ouais, faudrait que je le revoie en fait, je pète. Dis ça mais
après c'est très cheap.
C'est vrai que c'est la scène de Prout la plus fine du cinéma, je pense. Oui. Vraiment.
Mais c'est très émouvant et en plus c'est un film où ils prennent du plaisir avec des bonnes choses, ils boivent du vin, ils prennent de la soupe. Et moi j'adore
des flageolets.
Moi toi, j'adore les films, les comédies françaises où ils se régalent en bouffant ouais. Du vin, tu vois, barbecue, c'est un film génial pour
ouais,
ça.
Ouais, bien sûr.
alors après en tant qu'ancien scout toujours.
Yes.
Même si c'est un film qui m'a énormément énervé parce que je disais à mes potes, mais non, les scouts ça n'a rien à voir avec scout toujours. Mais Junio, il a aussi réalisé Pinot Simple Flic. Et après, dans les années 90, il fera vraiment ces super films. Mm. Je trouve que c'est avec Balasco, un des meilleurs membres du Splendid, qui a vraiment fait des super films derrière. Mais c'est vrai que Michel Blanc aussi, il a fait des super films. Et lui, c'était plus dans les années 90 parce que c'est vrai que Marchalon, c'est super. Mais surtout Grosse Fatigue, qui est vraiment hallucinant. Et après, moi, j'aime bien toute la petite période Coluche. Tous les films de Coluche, en fait, t'avais Banzai, Inspecteur Labavure, le Maître d'École. C'est pareil, c'est des comédies qui sont. Bon, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est toujours un plaisir de les revoir.
Oh, c'est génial, moi.
Sac de nœuds, réalisé par Balasco, que j'aime beaucoup aussi, mais je préfère ce qu'elle fera dans les années 90. Pareil, Nuit d'ivresse, qui est super cool. Le téléphone sonne toujours deux fois, avec l'ancienne bande des Inconnus, avant qu'ils deviennent vraiment les Inconnus, quand ils étaient encore cinq. Et puis alors après, moi, ce que j'adore, c'est les Aldo Machione, Philippe Clair, Aldo Machione. Là, on est clairement dans le nanar, hein, mais alors, Plus beau que moi, tu meurs, tais-toi quand tu parles. Là, on est vraiment dans le bon truc. Et puis, t'avais aussi... Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, avec Alan Silvestri qui fait la BO. Ça, c'est génial.
C'est incroyable. Ouais.
Après, bon, bah, les Max Pécasse, Mon curé chez les 10, tous les films avec Saint-Tropez. Ouais. On se calme, on boifera à Saint-Tropez, les branchés de Saint-Tropez, Deux Enfoirés à Saint-Tropez. Enfin, il y a du nichon, il y a de la plage, il y a des blagues de merde. Enfin, on est dans le nanar. Mais
est-ce qu'il y aurait du soleil et des nanas?
Peut-être aussi, dans la dirada. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est ça, les années 80, c'est. Aldo Machione qui marche sur la plage en faisant le débile.
Ouais.
Les Max Pécasse. Comment il s'appelle le curé de Mon curé chez les nudistes?
Paul
Prévost.
Ouais, bah voilà, Paul Prévost, tu vois. Et c'est à ça que ça me fait penser surtout les comédies françaises des années 80.
Antoine?
Je reviens sur beaucoup de choses qu'a dit David, hein, et je rajouterai juste Les Fugitifs et Les Compères, hein, voilà, Depardieu, Pierre Richard.
Il y a vraiment des bons buddy movies. Hein,
c'est vraiment la décennie spéciale des buddy movies, même aux États-Unis de toute façon.
Alors moi j'en ai une, c'est Le Coup du Parapluie,
ah oui,
avec Pierre Richard de Gérard Rouy.
Garo Toutou.
Ragout Toutou,
pardon.
Le ragout de mon toutou.
J'en suis fou.
C'est déjà rien que la...
Moi il me faisait peur quand j'étais petit, ce film.
Mais ouais.
À cause du...
Le parapluie.
À cause du poison. Là,
du poison, peur, ouais. Le paradis empoisonné. En fait, c'est un acteur raté. Il est confondu avec un tueur à gages. Il doit tuer un grand magnat... industriel là, avec un parapluie.
Tu parlais de Buster Keaton, ça fait très film avec Buster Keaton.
Et ouais, totalement.
Parapluie, ouais.
Et moi j'adore parce qu'il y a c'est un peu une parodie de film d'espionnage. Ouais. Et ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'il y a le méchant de Goldfinger dedans.
Ouais.
Il y a Gert Frobe, le méchant de Goldfinger joue dans le. Ouais, il est super flippant. Ouais. Il joue dans Le Coup du Parapluie, quoi. Et c'est génial. C'est un plaisir toujours intact. Et d'ailleurs, j'ai envie de m'acheter le t-shirt Ragout Toutou. <tiens. rire>
Allez, pour Noël l'année prochaine. Béa.
Eh ben moi j'aime beaucoup Pour Sombrer que t'as plus rien d'Edouard Molinaro, avec Auteuil et Junio qui doivent faire un casse et c'est super drôle, c'est une sorte de huis clos dans une banque, c'est super drôle. Effectivement, j'étais étonnée que personne ne dise La vie est un long fleuve tranquille, même si c'est la fin des années 80, mais Étienne Chatiliez quand même réalisé un film, là aussi je trouve, avec des répliques
moi, elle m'adore,
dont on
vous,
parle,
elle vous déteste.
Le lundi sert à violi, enfin c'est...
Mais madame, je vous jure.
Mais ouais, non, c'est ça a vraiment
en
marqué.
Vélo.
je vais pas m'étendre parce que on a déjà moultement parlé, c'est les 2h moins le quart avant Jésus-Christ.
Oui, c'est vrai.
J'aurais pu
le mettre.
Voilà, j'adore.
Il y a aussi Elle voit des nains partout dans les années 80.
Et sinon, moi, j'ai noté... alors, il y a Trois amours, un couffin aussi, qui était quand même très drôle et à la fois très touchant, avec un super trio d'acteurs. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, de Poiré, encore. C'est Mes meilleurs copains.
Ah oui, ouais.
Qui date de, là aussi, de 89.
Je ne le mets pas dans les comédies, moi.
Oh, bah, c'est drôle.
C'est très comédie dramatique pour moi.
Ouais, mais c'est cinq copains qui se retrouvent. Donc, il y a Clavier, Bacri, Lanvin, Daroussin. Ils se retrouvent, des amis de longue date, qui se retrouvent pour un week-end dans la maison de l'un d'eux, je crois.
Arcachon.
Et voilà, et il y a des flashbacks sur leur jeunesse et tout ça autour d'une nana qu'ils ont tous plus ou moins sauté. Moi, je le trouve drôle. Et effectivement, il est drôle et touchant, mais c'est une bonne comédie. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup.
Personne n'a dit Les Ripoux ?
Non, on aurait pu, c'est vrai.
Parce que bon.
Ouais, c'est de qualité.
Moi, j'aime pas Les Ripoux.
Je préfère le 3, moi, avec Laurent Deutsch.
Ah mon dieu.
C'était pas si nul, si ? C'était nul ?
C'était plus. C'était moins nul que le film d'après avec Laurent Deutsch, L'Américain, réalisé par Tim Seed.
Mais c'était probablement plus nul que la chronique qui arrive, non ? Non.
On passe tout de suite. Ah, le champion des transitions.
Ah, la pile, le pile.
Transition diabolique.
Tu veux un truc ou pas ?
J'ai aucune introduction parce que c'est les comédies françaises et c'est trop dur de faire des introductions.
Ok, ça marche. C'est vrai que une fois j'ai dû faire un spectacle d'impro où on demande des genres cinématographiques pour faire l'improvisation et on nous a dit « faites comme une comédie ». Bah, c'était nul en fait, c'était super nul.
Bah ouais.
Voilà, c'est pas ça là.
C'était vraiment faites-nous rire.
Bah ouais, donc c'est impossible. Ce sera ça l'intro d'Antoine. Antoine. Ouais.
Bah bonjour, c'est le pilule bleu, pilule rouge, blague.
Super voilà. Drôle.
Insérer blague.
Insérer blague.
Les rires enregistrés, t'as pas des rires enregistrés.
Sans titre.mp4.
Moi j'ai ça.
Ah bah merci. MJ, Oscar et Ghost.
T'auras pas mieux de notre part, hein, donc ouais, vas-y, prends ça.
Y a pas de soucis. Alors, pour rappel, pilule bleue, pilule rouge, donc c'est...
J'ai fait un fondu sur des applaudissements.
je prends des films des années 80, de comédie française, et on va faire des jeux de mots dessus, et c'est à vous de les trouver, mes chers amis. Alors, donc les deux films que j'ai choisis, c'est Papy fait de la Résistance et Les Compères. Oui, parce que j'aime bien mettre toujours une de mes références, au moins, voire les deux, dedans. Alors, je vais commencer très simple. Alors, celui-là, pour rappel, le petit synopsis des compères, c'est une femme a perdu son fils, hein, et elle va contacter deux de ses anciens amants en leur faisant croire que c'est leur fils à eux, et qu'elle leur a jamais dit pour qu'ils le retrouvent. Voilà. Et Papy fait de la Résistance, bah, on est en 43, les bourdelles se voient aussi envahis par l'Allemagne, ils sont logés dans une cave, et le fils de la famille est en fait super résistant. Voilà, une sorte de super-héros anti-nazi. Alors, pour retrouver son fils, une mère fait croire à deux anciens amants qu'ils sont le père. Leur recherche va les mener le soir de Noël dans un appartement de détresse amitié.
Les compères Noël est une ordure.
Oui, voilà, celui-là était gratuit.
C'était pour nous échauffer.
Exactement.
Réponse collégiale.
En 1943, les bourdelles, voilà, ils sont dans une cave, il y a des Allemands, et leur fils, qui est joué par De Niro, c'est un vieux monsieur quand même, qui a même une doublure...
Dirty Papy fait de la Résistance.
Oh, joli ! Je veux dire qu'il avait une doublure zizi avec Zac Efron, voilà. C'était rappel à nos films, notre épisode comédie sur les comédies US.
Ça remonte.
Il y a 2 ans.
Yamel était encore en vie.
Alors, pour retrouver son fils, une mère fait croire à deux anciens amants qu'ils sont le père, et leurs recherches vont les mener sur les traces d'un chien basketteur.
Les compères Bird.
Les compères Bird.
Voilà, on fait classique, on est doux, hein, ce soir. Mais tout super. Est dans la douceur et dans la comédie. Rions ensemble. En 1943, dans une cave, il y a une petite famille et leur fils, qui est interprété par Judd Law, il est super résistant. Il va même intégrer un jeu vidéo assez organique.
Papy fait de la Résistance.
Papy fait de la Résistance.
Super, c'est là.
Exact. Le poids de Boulard est fort.
Le poids d'élire, concentration. Il ferme les yeux en répondant.
Taquet, ouais,
alors, heureusement que Tristan n'était pas là, hein, parce que de la Résistance.
Oui, ça arrive.
J'ai envie de dire, heureusement que Tristan n'est pas là, tout court. Allez, ça, il n'écoute pas quand c'est pas là, on s'en fout.
C'est sûr.
David est à caisse.
Alors, pour retrouver son fils, une mère fait croire à deux dieux mythologiques qu'ils sont le père. Leur enfant vivant dans une sorte de New York.
Les compères C. Jackson.
Les compères C. Jackson.
Yeah. Oh, ça revient. Yeah. C'est la licence qu'on s'en fout.
Ils l'ont même pas fini d'ailleurs.
Ouais, non, vraiment. Pas fini.
Clean up est fini, tout le monde s'en bat les couilles. Et alors, le dernier, j'en suis un petit peu content.
Oh, il est content, ça se voit. Il
sent la mèche de la fierté.
Alors, je vous pose l'ambiance. C'est la guerre. On est en 43, il y a des Allemands et tout, il y a une famille qui est dans une cave. C'est une famille un peu particulière, c'est une famille de cochons. Hein. Et nous, on aime bien suivre la fille qui aime sauter dans les flaques de boue et rire beaucoup, qui est super résistante. C'est un dessin animé pour enfants.
Ah, c'est...
Peppa Pig fait de la résistance.
Peppa Pig fait de la résistance.
Baise. Bah voilà, voilà, voilà.
Et donc voilà, c'était un moment de comédie des années 80.
Ah, on arrive, sans racisme. Mais on arrive.
Alors merci à tous en tout cas encore de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux une fois de plus. Merci pour tous vos retours sur notre émission Star Wars que vous avez particulièrement apprécié, même si au moment de l'enregistrement, je ne l'ai toujours pas diffusé. Mais nous, on va se retrouver dans 15 jours. On va revenir à notre époque, hein, dans 15 jours, pour un style qu'on vous laisse bien entendu deviner sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle, le vendredi, hein, je pose toujours la petite question sur Twitter. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur les applis de podcast. Vous pouvez nous mettre des commentaires où vous voulez, mais principalement sur iTunes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On se retrouve dans 15 jours, je l'ai dit. Et puis, bon, en attendant, on essaie quoi? De se choper dans les salles obscures. Hein, au revoir.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir, bonsoir.
C'est cela, oui, oui, oui.
Ah, on a ri, on a ri, on a ri.
C'est cela, oui, oui, oui.
Ça, c'était de la bonne galère.
Ça, c'est... Ouais, ça, voilà, c'est... Quand on doit rigoler, on est là, hein.
Bien rigoler.
C'est cela, oui, oui, oui. Blablabla. C'est cela, oui, oui, oui.
Ah,
voilà.
Et puis la nouvelle animation, elle est... c'est mieux quand même, non?
Ah, putain, ouais. Parce que Thomas Dezer... Parce que
Thomas Dezer, vite fait, quoi.
Ouais. C'est assez dingue.
C'est cela, oui, oui, oui.
Fouad, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est cela, oui, oui, oui.
Quoi? Je lis plus.
Deux.
Un. Excellent.